Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier midi pédago de l'année à l'Université de Caen Normandie. C'est un vrai grand plaisir qu'on a de vous accueillir ici dans la salle du Belvédère, donc sur le campus 1, et également de vous accueillir à distance. On a un certain nombre de collègues qui nous regardent depuis leur bureau. Parfois, ils se regroupent à plusieurs dans le même bureau, donc on les salue. Ils peuvent interagir en permanence. Il y a Gabin Mottet qui va recueillir leurs questions éventuelles ou leurs problèmes techniques au cas où. Les midi pédagos sont un moment important. Ils permettent à notre communauté de pratique de se construire. Ils nous permettent d'échanger sur des enjeux très concrets. Ici, on va avoir une approche, une approche qui va s'intéresser à ces problèmes que l'on peut rencontrer, à ces flous qu'on peut avoir. Et pour ce faire, les midi pédagos sont construits autour de témoignages, de retours d'expérience de collègues où on sollicite des experts qui peuvent également nous apporter un éclairage. Alors le premier midi pédago de l'année, il est de manière complètement volontaire sur l'un des thèmes qui est finalement préalable à la question de l'enseignement, à savoir la question de la posture. Comment on se situe au niveau éthique? Quelle est notre responsabilité en tant qu'enseignant? On a toujours une certaine part de liberté. On se cache d'ailleurs parfois derrière cette fameuse liberté académique. Mais il y a une légalité qui l'encadre. Et cette question, elle est parfois floue, parfois elle est méconnue. Et on a un certain nombre d'éléments de réflexion qui sont nécessaires à développer et qui sont peut-être préalables à l'acte d'enseigner. Avant de commencer à faire mon cours, avant de recevoir mon étudiant, avant de lui rendre ses notes, on a peut-être des gestes professionnels, on a peut-être des attitudes qui sont à privilégier. Et donc c'est autour, un peu de cette autour de cette réflexivité qu'on va avoir aujourd'hui donc la chance d'avoir un certain nombre de personnes sur la table. Je vais commencer par l'extrême gauche. Je vais commencer par ici.
Ça n'a rien à voir avec ma conception politique.
Voilà, donc si vous pouvez en deux secondes vous présenter.
Je suis Amélie Guénon, la responsable du bureau des archives de la Direction des affaires juridiques et institutionnelles de l'université. Je suis donc en charge de la gestion de la politique d'archivage au sein de l'ensemble de l'établissement, donc de Caen à Cherbourg, Alençon, Lisieux, Vire, sur l'ensemble des sites. Et à ce titre, je suis donc la spécialiste de la gestion des documents d'activité de l'établissement.
Merci.
Donc pour ma part, je suis François Giraud, je suis le délégué à la protection des données de l'université. Alors, délégué à la protection des données, ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est un nouveau métier qui est apparu depuis le 25 mai 2018. En fait, je suis en charge de la mise en conformité de l'université avec le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est moi qui m'assure que l'établissement, dans son ensemble, collecte et traite les données à caractère personnel des étudiants, mais aussi des usagers, en conformité avec le règlement européen. Ça passe bien évidemment aussi par l'usage qui est fait des données par les enseignants, par les chercheurs ou même par les étudiants lorsqu'ils établissent des enquêtes auprès de la population générale. Donc il semblerait que je sois le spécialiste de la donnée à caractère personnel autour de cette table.
Oui, bonjour, je suis Annie Cobalto, donc je suis responsable de la sécurité du système d'information. Donc moi, je vais aussi m'intéresser à la protection des données, mais au sens le plus large, pas que les données à caractère personnel, au fait que vous acquiriez les bonnes pratiques pour protéger votre information et au fait que le système marche et que vous puissiez continuer à travailler, donc en lien avec la DSI, bien sûr. Voilà, donc les principales missions.
Merci.
Donc bonjour, je suis Elisabeth Schneider, donc je suis maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'INSP de Caen, anciennement ESP. Et donc de quoi suis-je la spécialiste? Les usages du numérique et donc en particulier la manière dont les étudiants vont être amenés à produire des contenus et que dans ce cadre-là, ça devient des objets d'information qui peuvent être soumis à protection, regard critique, etc.
Thierry Machefer, je suis Prague en philosophie à l'INSP, INSP, j'ai encore du mal à le dire, de Caen donc. Je suis spécialiste de rien, mais quand même un petit peu des questions d'éthique justement et de déontologie professionnelle et de façon plus large des objets un peu transversaux des métiers de l'enseignement.
Merci. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer avec Thierry Machefer en posant peut-être un ou deux cadres autour de ce sujet, autour de l'agir de manière éthique et responsable en contexte universitaire. Peut-être un petit cadrage terminologique, parce que éthique, déontologie, responsabilité, ça peut paraître parfois un petit peu voisin, voire identique, alors que c'est peut-être pas le cas, s'il y a des mots différents. Et puis, peut-être concrètement, de nous expliquer en quoi ça nous concerne ou pas.
Alors, ça nous concerne. Ça, c'est la partie facile de la réponse. Alors, peut-être, sans rentrer dans trop de détails, pour faire rapide, il me semble que le point le plus important, et je dirais que la configuration de cette table l'illustre assez bien, c'est que la responsabilité, ça renvoie à deux champs qui sont assez distincts. Un champ, disons, juridique au sens large, donc juridique et réglementaire, et un champ proprement éthique. Et donc la responsabilité du professeur, elle est certes juridique, donc il y a un certain nombre de réglementations à respecter pour que les choses fonctionnent bien. Alors la protection des données, notamment, en est un très bon exemple, évidemment. Mais il y a aussi un espace de responsabilité qui ne relève pas d'une réglementation, qui ne relève pas de texte juridique qu'il faudrait appliquer, mais qui relève d'un rapport éthique. Ce rapport éthique, il est déontologique. Enfin, alors le terme de déontologie est lui-même un peu polysémique, mais enfin, ça désigne, disons, l'éthique du métier. Mais c'est bien une éthique. Et donc, Éric Préra, par exemple, qui est un des grands spécialistes de cette question de l'éthique professionnelle, insiste sur le fait qu'il n'y a rien de plus étranger à la déontologie que l'idée d'un cadre extérieur venant organiser une activité et qui soit une réglementation. Donc la déontologie, ce n'est pas une réglementation. C'est pas quelque chose qui est fixé par un cadre extérieur, c'est quelque chose qui émane d'une communauté de à l'intérieur d'une profession donnée et qui vient proposer un ensemble de principes d'orientation de nature éthique pour organiser cette profession qui est parfois réunie dans un code de déontologie. Pas toujours. Ce n'est pas le cas pour les métiers de l'enseignement, par exemple, où il n'y a pas de code de déontologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déontologie, mais elle est simplement pas formalisée et fixée. Voilà, donc peut-être la première chose, la distinction vraiment entre la sphère du droit et la sphère de l'éthique.
D'accord, merci. Alors, on pourrait peut-être prendre un exemple concret, justement, pour illustrer ça. Et alors, je reviens sur ma liberté académique. En tant qu'enseignant, nous sommes producteurs de cours. On produit des contenus d'enseignement. Est-ce que on en est propriétaire? Est-ce que tout ce qui se passe dans son cours, on en est propriétaire, depuis la conception de son cours jusqu'aux productions de nos étudiants? Et de manière générale, d'ailleurs, est-ce que je peux tout garder? Est-ce que je dois le partager? Peut-être là, des éléments de réponse avec Amélie Guénon et peut-être François.
La propriété, non.
Non. Amélie.
Oui, alors il y a plusieurs choses, en fait, dans cette question. Je vais essayer de répondre un peu point par point, de façon à ce que les choses soient claires pour vous tous. Effectivement, peut-être qu'on peut commencer par donner des exemples de ce qu'on peut produire dans le cadre de vos cours. Alors, il y a les cours en eux-mêmes, qui peuvent exister de façon matérialisée ou non. Hein. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez faire le choix de tout faire à l'improvisation. Vous pouvez avoir également des cours écrits. Vous suivez le plan que vous vous êtes donné, donc c'est un document hein, parmi tant d'autres. Vous avez également, en termes de production documentaire, des copies d'examen qui peuvent être produites, effectuées, des rapports de stage, des dossiers notés, des mémoires de recherche, des mémoires professionnelles. J'oublie peut-être encore certains documents un peu annexes. Vous pourrez me poser la question si vous le souhaitez après. En l'occurrence, pour l'ensemble de ces documents, des droits de propriété intellectuelle peuvent s'appliquer. C'est-à-dire que si jamais le document qui va être produit dans le cadre de ces enseignements a un caractère original, eh bien, vous ou l'étudiant en tant que producteur va détenir des droits de propriété intellectuelle. Donc des droits moraux et des droits patrimoniaux. Je ne vais pas élargir sur ce sujet. Je répondrai à vos questions plus tard si vous souhaitez en savoir un peu plus. Ces droits n'empêchent pas, en fait, que même si vous avez des droits d'auteur sur un document, il n'empêche pas qu'en fait ce document, il s'agit d'un document d'archives publiques et donc qui répond à la législation en vigueur concernant les archives publiques. Je ne sais pas si je réponds entièrement à la question. Hein. J'essaie d'avancer. En quoi consiste cette réglementation? Eh bien, les documents qui ont ce statut d'archive publique ne pourront être détruits par vous-même sans autorisation. Hein. Donc, il faudra effectuer une demande d'élimination auprès des archives de l'université et donc des archives départementales du Calvados. Et une partie des documents que vous aurez produits ou que vos étudiants auront produits pourront faire l'objet d'un versement pour une conservation définitive auprès du service d'archives publiques également, qui les conservera donc pour toujours si ces documents ont un intérêt historique. Donc voilà en quoi constitue ce statut d'archives publiques.
Oui. D'accord. Donc, pour reprendre, donc, en tant que producteur de cours, je fais un cours qui est original, que je monte de A à Z. En tant que tel, si je veux le détruire...
Je ne peux pas. Exactement.
Et s'il a un caractère historique...
Eh bien, du coup, vous êtes dans l'obligation de le verser chez nous. Exactement. D'accord. Je suis désolée, j'étais obligée de reprendre un petit peu point par point pour que vous ayez vraiment tous les éléments hein, pour comprendre tout ça. Donc, pour revenir à la durée de conservation,
ouais.
Eh bien, la durée de conservation des documents que vous allez produire ou que vos étudiants vont produire va être déterminée en fonction de la valeur hein, de ces documents qui pourront avoir une valeur purement administrative, une valeur pédagogique, une valeur financière, fiscale, enfin voilà. Je ne pense pas en ce qui concerne l'enseignement, mais cette valeur, du coup, va déterminer une durée d'utilité administrative, hein. C'est notre jargon, qui va donc nous obliger à conserver ce document pendant tant d'années. Au terme de cette durée, eh bien, ce document sera soit détruit, soit conservé pour toujours. Alors, quelques exemples peut-être. La copie d'examen, elle va être détruite au bout d'un an, à compter de la publication des résultats. Si on se réfère à l'instruction ministérielle du 22 février 2005, les cours et supports de cours que vous produisez peuvent être normalement versés au service d'archives au bout d'une durée d'utilité administrative de 2 ans. Après, ces DUA, en fait, ces durées d'utilité administrative, elles peuvent faire l'objet d'une négociation avec le service d'archives public, hein, le service d'archives, et bien entendu, elles peuvent être rallongées, rarement raccourcies, mais parfois rallongées. Voilà.
Sous réserve.
D'accord.
Négociation, j'ai dit.
Sous réserve, parce que, comme disait Amélie tout à l'heure, par exemple, les copies d'examen ont une durée d'utilisation administrative d'un an. Donc, au bout d'un an, les archives demandent à ce qu'elles soient supprimées. Le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, impose que les documents soient effectivement détruits. On n'a pas le droit de garder les copies d'examen au-delà de la durée d'utilité, d'utilisation administrative. Et là, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas « Oh, ben, il m'en reste un petit peu dans mon armoire, c'est pas grave, c'est pratique pour caler la porte ». Non, elles doivent être purement et simplement supprimées. Sachant que derrière, ben, c'est le cadre du RGPD qui s'applique avec éventuellement les différentes sanctions qui peuvent s'appliquer en cas de contrôle.
D'accord. Et ça s'applique également aux productions numériques que je peux avoir éventuellement sur mon disque dur ou c'est sur la copie d'examen ?
C'est pour tout.
D'accord.
C'est pour tout. Le RGPD s'applique dès qu'il y a données à caractère personnel et... Lorsque l'on collecte une donnée à caractère personnel, il faut que la finalité, donc l'usage, la destination de la donnée soit définie à l'avance et que sa durée de conservation soit définie aussi dès le départ. On ne peut pas se permettre de collecter une donnée à caractère personnel pour la garder ad vitam aeternam sans se poser la question de la purge éventuelle, dans le cadre des archives publiques, de la durée d'utilité administrative pour pouvoir justement les collecter. Il faut absolument savoir, avant même de collecter la donnée, au bout de combien de temps on va la supprimer.
D'accord, alors bon. Donc là, je vous...
On pète un peu l'ambiance.
Alors, on va repartir sur d'autres cas de figure, parce que là, on est peut-être tous enseignants un peu mis en difficulté à entendre nos pratiques. On est en train de se dire, il va falloir qu'on nettoie un petit peu nos armoires dans nos ordinateurs.
Mais je viendrai faire un petit tour, et puis vous verrez, ça se passe très, très bien.
Alors, on va se remettre à l'aise par rapport à quelque chose. On va prendre un autre cas de figure. Là, on va... moins se mettre en difficulté, nous, on va regarder plutôt nos étudiants, qui aussi, par rapport à la question de l'éthique, peuvent parfois nous renvoyer à des problématiques et à des questions devant lesquelles on ne sait pas toujours réagir. Et là, je vais demander éventuellement à Elisabeth de pouvoir nous éclairer sur un cas de figure où, par exemple, on aurait un étudiant bon ou mauvais, mais qui est un étudiant sérieux, ça nous est peut-être déjà tous arrivé. Et cet étudiant sérieux, dans son rapport, dans son devoir, on découvre qu'il y a un passage entier qui vient d'une source encyclopédique libre, dont on va taire le nom, et qui n'est pas inintéressante, mais en soi, ça nous semble être du plagiat. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Est-ce qu'il faut le dénoncer à la police, le livrer à la justice ? Que faire ?
Oui, je ne me risquerai pas sur les questions purement réglementaires, et là je laisserai la place aux vrais spécialistes, et d'ailleurs peut-être que commencer par définir ce que c'est que le plagiat, ça me permettra ensuite de...
Peut-être, oui.
Strictement parlant.
Alors la définition stricte du plagiat, moi j'aurais envie de la définir comme étant...
Juste mettre en face du micro.
J'ai pas dictionnaire sous les yeux, mais je pense que le plagiat pour moi c'est donc le vol d'une œuvre, hein, d'une œuvre. Voilà, c'est ça, d'un document sur lequel en fait on avait des droits de propriété intellectuelle, et donc le plagiat c'est le vol de cette information, hein, que sans mentionner la propriété intellectuelle. Hein,
voilà. C'est qu'effectivement, je crois qu'une des particularités, c'est qu'on fait passer l'œuvre de quelqu'un d'autre pour être comme étant la sienne. Ouais. Donc c'est un vol, mais en plus un vol que l'on assume. Donc moi, mon point de vue est effectivement plus pédagogique, alors à deux titres. D'abord parce que, en tant qu'enseignante, comme chacun d'entre nous, je suis confrontée à des étudiants qui parfois vont produire des copies, et parfois on les repère très très vite, et parfois c'est beaucoup plus difficile à repérer, mais on voit bien qu'on n'a pas affaire à une copie authentique. En tout cas, un travail original. Et puis, l'autre point de vue, c'est que je suis responsable d'un parcours de formation qui forme des professeurs documentalistes, et donc qui sont garants du droit de l'information et de toute la réflexion sur l'information, qui forme la génération qui va arriver comme étudiant plus tard dans les collèges et les lycées sur ces questions d'information communication. Donc moi, ce que je dirais sur ces situations, ces cas particuliers où l'on est confronté à des étudiants qui produisent du copier-coller, voire du plagiat, puisque le copier-coller n'est pas un plagiat, c'est un écrit intermédiaire, c'est une collecte d'éléments, mais qui peuvent restituer la source originale, et donc ne pas relever du plagiat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous-mêmes produisons très souvent des copier-coller, hein, je pense que c'est un geste technique avec le numérique qu'on a au quotidien. Donc déjà, c'est cette distinction-là. Et donc, quand on est confronté à ces étudiants-là, pour l'avoir été à de multiples reprises, je pense que c'est très intéressant d'essayer de se poser la question qu'est-ce qui fait qu'un étudiant sérieux, puisque c'est le cas, se retrouve en situation de penser que produire un texte copier-coller ou bien produire... nous proposer un plagiat en guise d'évaluation, à quel moment ça lui semble être la bonne solution. Et donc régulièrement, je ne veux pas non plus penser que je suis confrontée à ces étudiants-là tous les jours, ça serait faux, mais ça arrive quand même tous les ans d'être amenée à discuter avec eux, et c'est intéressant de voir dans ce qu'ils expliquent, c'est que Il y a des causes de plusieurs ordres. La première, mais ce n'est pas forcément la première en termes de hiérarchie, c'est la méconnaissance du travail à produire. C'est-à-dire ne pas savoir exactement ce qu'on attend de nous, enfin de ce qu'on attend d'eux, et donc de travailler dans l'urgence et de finalement produire quelque chose en cette espèce de tâtonnement. Et pour des raisons bonnes ou mauvaises, ils finissent par produire, enfin forcément des raisons mauvaises, ils finissent par produire un travail qui n'est pas le leur. L'autre cause avancée, donc, c'est la surcharge de travail. Parfois des formes d'évaluation qui sont extrêmement coûteuses sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, et que peut-être parfois, qui se cumulent à des périodes d'examen, de contrôle continu, et où, du coup, les étudiants, c'est la solution de secours, d'urgence, de se dire, il fallait que je rende tant de choses qu'à un moment donné, il faut que je sacrifie la qualité quelque part, et je me dis que sur celui-là, ça risque bien de passer. Voilà. L'autre élément avancé, et c'est assez surprenant parce que j'interviens auprès de Master 1, Master 2, donc c'est des gens qui ont au moins 3 ans de parcours universitaire derrière eux, et certains me disent « mais on a toujours fait ça, et personne ne s'en est jamais rendu compte ». C'est la première fois que ça coince. Donc là, je m'interroge vraiment peut-être des pratiques d'évaluation, peut-être des méconnaissances de méthodes de travail de la part de ces étudiants. Et là, vraiment, on a des étudiants qui tombent des nues quand on leur dit « mais non, ce que vous avez fait, c'est du plagiat, mais non, ce que vous avez fait, c'est... » Et c'est vrai que pour la répondre directement à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, je pense qu'il y a tous les gestes éducatifs, tous les gestes professionnels de l'éducation et de l'enseignement qu'il faudrait avoir, à savoir celui de l'explicitation, celui de la pose de limite, de dire non, là, ça relève du plagiat, donc voilà ce que vous encourez, celui de la sanction éducative, de dire comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un se remette au travail malgré tout, comment est-ce qu'on fait pour inscrire dans son plan de formation des activités qui permettent aux étudiants, parce que c'est la même question au collège et au lycée, qu'est-ce qu'on inscrit dans notre formation pour leur permettre de réfléchir et de construire un rapport éthique à l'information, un rapport éthique à leur production. Je m'arrête là, mais j'aurai des exemples concrets si après vous le souhaitez.
Et juste, tu veux peut-être...
Peut-être rajouter que l'université met à disposition un système, un logiciel d'aide à la détection de plagiat, notamment qui est connecté à la plateforme Campus. Donc quand les étudiants déposent un devoir, vous pouvez décider qu'il soit soumis à l'antiplagiat. Et donc l'étudiant aura accès, sauf erreur, à un rapport de similitude. Donc il pourra voir en fait si son document son devoir est considéré comme plagié ou pas. Il va y avoir une campagne en fait d'information un peu sur autour de ce logiciel qui est prévu, je crois, par le CEMU et sur la communication, la direction de la communication, pour expliquer en fait comment on peut se prémunir du plagiat et aussi comment on cite ses sources, parce que les étudiants n'ont pas forcément l'information sur la façon dont on cite ses sources. Parce qu'on peut très bien faire des citations dans un devoir et dire voilà, mais c'est cette information, elle vient de telle source.
Donc c'est intéressant de voir que il y a la dimension de l'éducation au plagiat qui est nécessaire de la part de l'enseignant vers ses apprenants étudiants, et puis aussi l'existence parfois d'assistance technologique.
Je peux juste...
Oui, bien sûr.
Et qui a une valeur éducative parce que ça sert de révélateur, c'est-à-dire que là c'est objectif et on peut attester de cette similitude.
Est-ce que dans le rapport des similitudes, en fait, en face la source en fait telle qu'elle existe, alors que si ça peut être un autre devoir d'un étudiant, ça peut être une source sur internet, ça peut être un document venant d'une bibliothèque, je pense aussi. Donc on voit en fait le passage de l'étudiant tel qu'il a mis et le passage tel qu'elle est dans la source, donc ça permet une prise de conscience en fait.
Alors peut-être on peut rester ensemble alors sur un sujet qui relève aussi de la question de son rapport à ses étudiants, dans la façon dont on va communiquer avec eux. Alors sur cette communication qu'on peut avoir avec eux, alors il y a deux familles de questions. Alors c'est bien d'avoir autour de la table, et c'est là quand on parlait de comité de pratique, c'est vraiment agréable d'avoir à la fois des personnes issues des services et des collègues enseignants. La question de la proximité avec les étudiants qu'on va avoir, elle se pose toujours. On a toujours cette question-là et on est, à mon avis, sur une vraie question éthique. Concrètement, est-ce qu'on les vouvoie? Comment on se positionne par rapport à eux, en particulier quand on a des étudiants de troisième cycle, où on peut avoir des rapports ou des étudiants de master qui vont dans quelques mois devenir potentiellement des collègues. De la même façon, et là peut-être plus d'un point de vue numérique, comment on communique avec eux, par quel biais je communique avec eux, est-ce que si par exemple je me mets dans leur groupe Facebook, ça pose un souci pour moi, pour eux, j'ai l'impression que j'ai la réponse dans ma question, mais ça peut être intéressant de voir si c'est juste illégal ou peu éthique. Donc peut-être commencer par la question du rapport aux étudiants, la distance, comment ça se construit, comment on peut réfléchir à cette question-là.
Oui, je veux bien répondre. Donc là, pour le coup, c'est une vraie question éthique et non pas réglementaire ou législative, comme les questions qu'on a posées préalablement. Tu as utilisé la question du problème éthique du plagiat. Alors évidemment, on peut dire que le plagiat, ça pose un problème éthique, mais là, en l'occurrence, ça pose un problème réglementaire. Hein. Donc on peut dire que derrière le règlement, il y a une éthique, mais voilà. Alors là, pour le coup, la question de la distance, de la juste distance avec... l'élève, quand on est au collège ou au lycée, ou l'étudiant quand on est à l'université, c'est véritablement une question éthique, puisque là, il y a un certain nombre d'éléments qui ne relèvent pas du droit. Ça va commencer à relever du droit si on rentre, pour le coup, dans un certain nombre de gestes qui sont au minimum ambigus, voire tendancieux. Et là, on rentre dans le cadre du droit. Mais avant ça, hors de ces situations un petit peu, alors qui parfois, d'ailleurs, quand elles arrivent à la frontière, sont pas si faciles à saisir toujours, mais enfin, hors de ça, on est dans une question proprement éthique. Alors, je dirais que pour répondre à cette question-là, alors d'abord, je ne vais pas répondre à la question du vouvoiement ou du tutoiement, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse. Y a des principes qu'on peut appliquer et qu'on va appliquer à des situations particulières de relations, et pour lesquelles chaque enseignant va prendre une décision. C'est éthique dans la mesure où la décision est prise en réfléchissant sur les implications, par exemple, de quelque chose d'aussi simple que de choisir de vouvoyer ou de tutoyer. Mais il n'y a pas, je crois, d'un point de vue éthique, de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Pour donner donc quelques principes rapides, on peut dire que dans la relation pédagogique, il y a trois grands devoirs dans la question de la relation. Il y a d'abord, de façon générale, un devoir... c'est du Hannah Arendt redigéré, mais c'est un devoir d'hospitalité. C'est-à-dire que l'institution scolaire ou universitaire, accueille des personnes qui sont dans un rapport dissymétrique, voilà, de plus grande fragilité relativement au savoir, relativement au pouvoir, relativement à un certain nombre de choses. Et donc ça engage éthiquement un devoir d'hospitalité, c'est-à-dire de capacité à accueillir les personnes de façon à la fois protectrice, au sens affectif, comme au sens plus directement sécuritaire. Devoir d'hospitalité. Le deuxième grand devoir, c'est un devoir de sollicitude, qui est lié, si vous voulez, le devoir d'hospitalité, il est lié au fait que l'élève ou l'étudiant est nouveau venu, en quelque sorte, dans quelque chose, peut-être qu'il deviendra ensuite un adulte responsable, et le devoir de sollicitude, il est lié au fait qu'il est plus fragile, donc les deux, évidemment, ont des articulations, mais c'est important, et on voit souvent des enseignants parler, s'adresser d'une façon qui est jugée par les élèves ou les étudiants comme brutale, comme agressive, alors que ce n'est pas du tout l'intention de l'enseignant. C'est ce devoir de sollicitude et donc cette attention qui se joue là-dedans. Éric Préra, encore lui, qui a beaucoup travaillé et qui travaille actuellement beaucoup sur ces questions-là, insiste beaucoup dans cet aspect de la sollicitude sur la notion de tact, sur l'idée qu'il y a une vertu, donc une disposition à agir qui est le tact, qui est assez peu pensée et dans la philosophie et dans la pédagogie ou disons la pensée éducative, qui est justement cette capacité à saisir la bonne distance, à la fois en réfléchissant et en s'adaptant à des situations contingentes. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un devoir de justice et un devoir de confiance. Je crois que c'est... Nous sommes, en tant qu'enseignants, dans une position d'autorité, aussi dans une position de pouvoir, puisque nous évaluons les étudiants, etc. Et éthiquement, il y a un minimum... Alors, confiance, elle n'est pas aveugle. Hein, la question du plagiat, par exemple, tout à l'heure, le signifie. Mais il y a quand même un rapport de confiance à installer. Si on veut que les étudiants se mettent dans un rapport de confiance vis-à-vis de ce qu'on leur propose, il faut aussi qu'on soit dans un certain rapport de confiance vis-à-vis de ce qu'ils sont. Et donc, c'est une des dimensions du respect. Donc voilà, il y a plusieurs, hein, bon, ce serait long un peu de développer, mais plusieurs principes comme ça. Et c'est en sens que c'est éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des réglementations qu'on pourrait appliquer en disant là, on est hors du cadre. C'est un ensemble de principes qu'on va essayer de mettre en œuvre dans des situations qui sont des situations dont la particularité est d'être contingente, c'est-à-dire particulière et changeant et toujours changeante.
J'allais ajouter quelque chose directement, parce que pour revenir avec l'exemple qui a été pris sur Facebook, parce qu'on n'a pas cité Wikipédia, mais on cite Facebook.
Oui, pardon. Alors que Wikipédia gagne un peu moins.
Oui, Facebook, c'est ça. Pardon. Voilà. Et donc, je voulais ajouter, pour ne pas perdre le fil, qu'effectivement, moi, j'ajouterais quelque chose, même si je ne peux que souscrire à cette question des principes, à la question des connaissances. Dont on peut avoir besoin aussi pour pouvoir décider, arbitrer, à savoir la connaissance des dispositifs techniques auxquels on a affaire aujourd'hui, à savoir comment fonctionne Facebook, par exemple, comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment ils captent des données, comment les données circulent, de façon à pouvoir décider est-ce que quand je communique avec mes étudiants par le biais de Facebook, est-ce que je peux être dans le cadre de cette sollicitude, dans le cadre de cette confiance, de ce cadre, etc. Parce que si je ne sais pas à quoi j'ai affaire avec Facebook, voilà, ma prise de décision est forcément biaisée.
Oui, juste. Merci de cette précision. Effectivement, c'est peut-être pas tout à fait clair. Les principes sont des principes rationnellement fondés et réfléchis, et donc ils s'appuient évidemment sur un ensemble de connaissances. On peut pas orienter son action de façon éthique si il n'y a pas des savoirs qui structurent la manière dont on va décider. Effectivement, c'est essentiel.
Oui, on n'est pas sur de l'affectif.
Non, c'est pas...
On ne peut pas instinctivement réagir.
Non, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont plus le sens instinctivement, j'en sais rien. Mais en tout cas, la décision, c'est l'idée de la prudence. Chez Aristote, par exemple, c'est l'idée que la décision particulière, et donc qui ne peut pas être déterminée à l'avance comme une règle de conduite qu'on préétablirait, elle est néanmoins orientée par un ensemble de connaissances, de savoirs, et donc elle n'est pas quelque chose d'affectif, de sensible ou d'intuitif, elle est quelque chose de rationnel, à laquelle on applique ensuite un jugement, le jugement du particulier, cette prudence qui est une vertu un peu particulière, mais c'est une vertu intellectuelle.
D'accord.
Alors justement, vas-y, oui. Vu qu'on parle d'un réseau social très connu...
D'un autre.
Je me sens un petit peu concerné. Et je pense qu'il y a il y avait un petit truc dans la question qui m'a amusé au départ. C'est est-ce que je peux rentrer dans un groupe Facebook de mes étudiants? Est-ce que éthiquement c'est acceptable, etc., etc. Là, j'ai pas la réponse. Mes collègues ont certainement une opinion là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou pas? Je ne me permettrai pas de juger. Mais si l'étudiant a créé son groupe Facebook, il en accepte la pleine responsabilité et il accepte éventuellement des amis ou des personnes qu'il connaît, ou éventuellement il accepte des personnes qu'il ne connaît pas dans son groupe. La question se pose lorsque c'est l'enseignant qui impose l'utilisation d'un canal de communication particulier qui fait appel à un prestataire extérieur. Donc ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être toute la famille des GAFA, où là, il se pose un réel problème juridique, à savoir que l'enseignant va demander à un étudiant de contractualiser avec un partenaire extérieur, accepter les conditions générales d'utilisation de l'outil. Or, le règlement général, alors j'en reviens toujours à lui, c'est mon livre de chevet, donc le règlement général sur la protection des données stipule que... non, mais c'est passionnant quand on le lit. considérant 92, mais c'est magnifique. Le RGPD indique clairement que la personne qui va donner ces données doit donner son consentement. Et le RGPD indique ce qu'est un consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Quand il s'agit d'un enseignant qui impose l'utilisation d'un canal de communication particulier, est-ce qu'on est dans le cadre du consentement libre, sachant qu'il y a quand même une relation d'autorité entre l'enseignant et l'enseigné? Personnellement, ça me pose un petit souci. Bon, pour moi, la réponse est non. C'est clair. On n'est pas dans un consentement libre. Pour rester vraiment sur la partie juridique, si on voulait vraiment imposer l'utilisation de ces outils-là au sein des études, il faudrait se baser sur un fondement juridique différent, qui est la signature du contrat, et donc informer l'étudiant avant son inscription à l'université que, dans le cadre de votre inscription dans telle année d'études, vous allez être amené à vous créer un compte Facebook, un compte Google, un compte Amazon, un compte Microsoft, un compte machin, un compte truc, un truc bidule, avec toutes les conditions générales d'utilisation, de sorte à ce que la personne, quand elle s'inscrit, sache à l'avance à quelle sauce elle va être mangée. Alors, moi, derrière, ça me pose aussi un autre souci qui, là, est plus éthique. Donc là, j'empiète un peu sur votre terrain. Moi, personnellement, ça me pose des gros soucis. C'est quand je vois, par exemple, des étudiants qui vont réaliser des sondages sur Google ou sur Facebook ou autre. En dehors de tout cadre de la part de l'enseignant, l'enseignant a préconisé l'utilisation de la plateforme Lime Survey de l'université. L'étudiant n'en fait qu'à sa tête. Et il le fait sur Google. Moi, je me pose la question au niveau éthique, c'est est-ce que l'université est légitime pour favoriser l'usage de ces outils externes, sachant qu'ils vont participer à la prolifération et à l'augmentation du profilage de la population? Et est-ce que ce n'est pas notre rôle, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de sensibiliser nos étudiants aux risques et dérives, et vraiment de les sensibiliser au plus près de l'usage qui peut être fait, et dire, ben voilà, on utilise Google, on utilise Facebook. Alors, j'ai rien contre eux, c'est très, très pratique. Mais les étudiants, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas forcément conscience que même un sondage anonyme, ben oui, c'est pas grave, mon sondage, il est anonyme. Il porte sur un sujet lambda, et la personne qui va répondre n'a pas besoin de se connecter, d'avoir un compte chez Google pour pouvoir répondre. C'est 100% anonyme. Mais non. Chez Google, il existe les comptes fantômes qui permettent de rattacher les réponses à un questionnaire à un profil existant, et donc ça participe au profilage de la personne qui va répondre au questionnaire. Alors le questionnaire peut être relativement... anodin, quelle est la qualité de la cantine à midi? Bon, ça, on s'en moque un petit peu. Mais le questionnaire ou l'appel à communication peut être un peu plus sensible, comme ça m'est arrivé avec des étudiantes en psychologie qui avaient lancé un appel sur Facebook sur l'impact psychologique de la rémission du cancer du sein. Et donc, benoîtement, elles ont posté sur Facebook une annonce, on fait une étude sur les femmes en rémission de cancer du sein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Elles n'ont rien fait de mal, elles ont juste mentionné leur sujet de recherche. L'ennui, c'est les personnes qui ont lu la communication, qui ont dit « Ah, ben tiens, Martine Duglumeau, tiens, ça, tu devrais participer ». En effet de bord, on sait que Martine Duglumeau est en rémission du cancer du sein. Et Facebook est au courant que Martine Duglumeau... Et donc là, l'étudiante n'a rien fait de mal, n'avait absolument pas idée qu'elle allait pouvoir collecter de la donnée de santé. Donc au sens du RGPD, la donnée de santé est une donnée éminemment sensible. Elle n'avait absolument aucune idée que son appel à témoignage allait pouvoir... diffuser des informations concernant quelqu'un dont elle n'a aucune connaissance. Et là, ça m'interpelle, moi, en tant que, en tant qu'agent de l'université, sur notre rôle, sur l'éducation vraiment de l'étudiant vis-à-vis de l'utilisation de tous les outils qui reposent sur le cloud. Donc là, on a pris Google, on a pris Facebook, mais on peut prendre aussi comme exemple Prezi, on peut prendre plein d'exemples. On peut prendre des exemples du style Votar aussi, qui sont des moyens de faire des sondages directement dans les amphis. Ce sont des nouveaux usages sur lesquels on ne maîtrise pas encore l'impact sur la collecte de données, sur le profilage et sur justement la manière de sensibiliser les étudiants pour faire face à ces transmissions de données.
Alors,
chaque fois, j'ai l'impression que je pète l'ambiance.
Non. peut-être pour... c'est que la question, évidemment, de l'éthique et de la responsabilité, ça nous met devant un petit peu nos responsabilités. Et là, on a tous en mémoire l'historique des choses qu'on n'aurait pas dû faire ou qu'on continue à faire. Et peut-être d'ailleurs justement dans cette perspective, on pourrait aussi s'interroger sur la façon dont on peut se mettre en danger d'un point de vue numérique, parce que le danger numérique, il existe. On peut se mettre en insécurité peut-être, le terme plus que danger. Et il arrive parfois qu'en utilisant son compte, en créant un compte, en utilisant son adresse pour aller sur certains services en ligne, on se met éventuellement en difficulté et ça peut parfois impacter la protection des données de ses étudiants. Ça peut même peut-être impacter la sécurité d'un établissement dans son ensemble. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent surgir.
Je peux parler d'un exemple récent, les gens qui répondent un peu trop rapidement aux courriers malveillants et qui se font usurper leur compte. Alors, en soi... les personnes me disent des fois, c'est pas grave, mon compte, j'ai rien, j'ai pas de données confidentielles. Sauf que dans les données, il n'y a pas que la confidentialité des données. Et puis, il y a aussi l'usage qu'on peut faire avec votre compte numérique. Donc, c'est accéder à toutes les informations internes de l'université. Et aussi, comme ça se fait le plus couramment, c'est utiliser les serveurs de messagerie de l'université pour envoyer en votre nom des milliers, voire des millions de messages. Donc, qui provoque ainsi un dysfonctionnement de la messagerie. Ça, j'en parle parce que c'est quelque chose d'actualité en ce moment. On a eu des dizaines de comptes qui ont été piratés et utilisés pour envoyer des courriers malveillants depuis nos serveurs, donc avec des conséquences d'impact sur le travail de la DSI, de dysfonctionnement du service, de mise en liste noire par moment de nos serveurs et donc impossibilité pendant un certain temps d'envoyer des messages, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là de la protection des informations qu'on a. Donc il y a les informations que vous avez, que vous produisez. Il y a les informations auxquelles vous avez accès, en fait, par votre compte d'accès au SI ou par vos droits en tant qu'enseignant-chercheur. Toutes ces informations-là n'ont pas la même valeur, mais toutes ces informations-là ont un besoin, enfin, on nécessite un certain travail déjà, que ce soit les informations que vous produisez ou celles qu'on vous confie, on nécessite un certain travail pour les produire, donc elles ont une valeur en soi. Donc même si vous pensez que vos données ne sont pas confidentielles, elles ont quand même la valeur du travail associé à cette donnée. Et puis, je reprendrai ce qui a été dit sur la nécessité de réfléchir tout à l'heure aux implications. Ça s'applique aussi aux données, en fait, quand vous avez une donnée pour savoir en fait sa valeur, notamment en termes de confidentialité ou en termes de besoin de l'utiliser, il faut réfléchir aux implications que ça peut avoir si cette donnée est diffusée largement sur la terre entière, sur Internet, sur Facebook, etc. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Si cette donnée n'est plus disponible parce que vous avez par exemple tous vos cours sur votre ordinateur portable et puis vous avez un virus parce que voilà, vous vous êtes fait avoir, vous avez un virus et vous perdez tout. Quel impact ça a sur votre travail? Quel impact ça a sur le travail de l'établissement? Donc c'est vraiment réfléchir aux implications en fait chaque fois par rapport aux données, aux informations dont vous disposez et aux services auxquels vous avez accès de par votre présence à l'université.
Même si on n'a rien à cacher en soi, on peut malgré tout avoir... On a la nécessité de...
Oui, parce que quand
de masquer un certain nombre de choses. Ouais.
Quand on pense rien à cacher, en fait, on pense données ultra confidentielles, oui, numéro de sécurité sociale, je ne sais pas, des données sur la donnée médicale, etc. On pense toujours, non, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à cacher. Bon, déjà, dans votre vie personnelle, vous avez quand même des choses à cacher, malgré tout. Puisque si, par exemple, vous publiez sur Internet vos cartes d'identité, votre relevé d'identité bancaire, etc., ou que vous avez les mauvais gestes qui fait que un pirate y a accès, ça a quand même un impact sur votre vie personnelle, sur quelqu'un qui pourra usurper votre identité. Et on sait que les usurpations d'identité, ça existe et c'est très lourd parfois. C'est très difficile de s'en sortir.
Et il y a des fois des données qui nous paraissent anodines, mais qui peuvent vraiment avoir un impact sur la vie privée, par exemple, d'un étudiant. Par exemple, la diffusion d'un relevé de notes. Savoir que tel étudiant a eu telle note en fonction de la valeur. Fut une époque où on affichait publiquement ces informations-là dans le couloir de l'UFR et puis tout le monde était content. Depuis quelques années, la loi informatique et liberté et maintenant le RGPD ont refermé les verrous. On passe toujours pour des cerbères. Et on n'a plus le droit de diffuser ces informations-là. Alors on peut se dire, oui, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de, sensible dans le fait de diffuser une information type relevé de notes de manière publique, quoi. Or, ça peut avoir justement un impact auprès de l'étudiant. À chaque fois, je prends un exemple relativement simple. Une jeune professeure des écoles qui vient d'arriver dans une école. Moi, jeune papa. Je mets mon petit dernier à l'école maternelle et je m'aperçois que ça se passe mal avec l'enseignante. Je tombe sur Facebook ou sur Google ou n'importe quel média sur le relevé de notes de la jeune enseignante qui vient d'être diplômée, donc pour laquelle l'ex-SPE, là je ne me souviens plus du nom, l'INSPE a décrété que la personne était en capacité d'avoir une classe. Et je m'aperçois que l'enseignante en question a eu 2 en psychologie de l'enfant. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah ben, je vais aller voir le directeur et je vais faire du foin en disant c'est inacceptable que Madame Michu, qui a eu 2 en psychologie de l'enfant, et c'est pas du tout comment fonctionne un gamin, etc. Donc je prends un exemple extrême. Je ne connais pas les valeurs de l'ESPE. Mais ça peut porter préjudice à la personne, alors que l'institution a estimé que la personne avait tout à fait les capacités pour pouvoir enseigner. Alors je prends le cas extrême, mais ça peut être la même chose pour quelqu'un qui passe un diplôme en informatique, qui va être très bon, qui va s'être paumé sur une valeur, par exemple, en algorithmique. Ça peut lui boucher certains boulots, alors qu'il a son diplôme, éventuellement même avec une mention. Et pourtant, c'est juste quelques notes, c'est pas bien méchant. On pense pas que ce soit une donnée vraiment sensible. Ouais, je prends cet exemple-là parce que je viens d'avoir l'info qu'il y avait un enseignant dans une composante qui prenait en photo les relevés de notes et les diffusait sur Facebook. Donc,
On ne va pas prendre de nom parce que ça.
Je ne l'ai pas. Mon grand désespoir, je ne l'ai pas.
Oui. Cet exemple-là, en plus, va faire la transition. J'aurais voulu ajouter quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la réflexion, effectivement, sur les usages du numérique actuellement. Il y a nous sommes tous usagers du numérique et on a finalement beaucoup de croyances, de mythes qui se développent, d'idées que l'on a assez collectives sur notre rapport au numérique. Et une, c'est cette question du public. C'est le fait que les choses deviennent publiques parce qu'elles sont sur les réseaux. Et moi, j'ajouterais un autre élément, parce que je pense qu'on peut se poser la question de quelle serait l'implication si telle information était publique. Donc on voit bien des implications qui peuvent être assez graves. Mais il y a autre chose qui me paraît finalement plus spécifique du numérique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une technologie du copier-coller. C'est quelque chose qui nous permet de prendre de l'information quelque part, de la copier, de la mettre ailleurs, de la faire circuler autrement, de l'insérer, de changer le contexte de production, de changer le contexte de communication. Et là, tout d'un coup, on change complètement l'implication. C'est-à-dire que l'implication qui peut être cette cette espèce de mythe de la transparence qui, culturellement, dans d'autres pays, se passe très bien. Mais cette idée de dire bah, voilà, que mon relevé de notes soit... Bah, tant pis, j'ai rien à cacher, qu'on voit mon relevé de notes, c'est pas grave. En revanche, si on considère qu'on peut prélever des éléments de ce relevé de notes, les associer à d'autres données et ensuite fabriquer un nouveau document, là, tout d'un coup, l'impact peut être... on peut changer d'échelle. Et pour moi, il y a quelque chose qui est typique. Il faudrait ajouter la question du public à la question de l'inscription et de la circulation qui peut durer pendant des années et de cette, ce qu'on appelle la redocumentarisation, de la pérennité en fait, des données et qui peuvent ressurgir avec une nouvelle signification, avec une nouvelle portée. Et à mon avis, c'est là où on peut arriver sur des choses qui sont encore plus graves, quoi.
Voilà. Tout à fait.
Oui, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui fait une demande d'emploi, enfin, qui candidate à un poste, et là, le recruteur va regarder tout ce qui concerne cette information, cette personne-là, sur, en faisant des recherches diverses et variées sur divers sites, et va trouver des informations un peu compromettantes sur la personne, sur son activité par le passé, et du coup va peut-être hésiter à le convoquer pour lui faire un entretien d'embauche.
Sans nécessairement, donc, si je comprends bien, que ces informations soient authentifiées, certifiées.
Et
donc,
voilà, c'est ça. Et puis elles sont décontextualisées, elles peuvent avoir circulé, elles peuvent être ajoutées à d'autres et qu'après, par des biais interprétatifs, on leur donne un sens totalement nouveau.
Peut-être une dernière question pour finir. On a parlé de l'éthique de l'enseignant un peu vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses usages. L'enseignant en situation d'enseignement avec ses étudiants. Qu'en est-il auprès de ses collègues, auprès de sa hiérarchie, auprès des services aussi avec lesquels on est? Est-ce que finalement, être éthique, ça se cantonne à la question de son rapport avec ses usagers, ou ça s'élargit? Une fois de plus, c'est une question un peu rhétorique. Mais peut-être que vous pourriez développer cette question-là. Est-ce qu'on est dans des lignes hiérarchiques parfois confuses, qui ne sont pas très, très claires? Et puis, on a des représentations parfois statutaires ou autres.
Tu veux commencer?
Peu importe. Oui, alors la réponse est oui, ça s'élargit évidemment. La déontologie professionnelle, l'éthique professionnelle, effectivement, on pense toujours à l'exemple, enfin, dans les métiers de l'enseignement, enseignant, élève ou étudiant, mais évidemment, c'est aussi les pairs, donc les collègues, et la hiérarchie. C'est les trois facettes d'une déontologie professionnelle, je dirais, pour le coup, quelles que soient les catégories professionnelles, avec une particularité pour l'enseignement de cette relation asymétrique avec l'élève ou l'étudiant. On peut dire que déontologiquement, il y a évidemment d'abord une obligation déontologique qui est encadrée par notre statut de fonctionnaire, de demande à fonction publique, et donc qui implique notamment une obligation d'obéissance à sa hiérarchie. Alors, on n'aime pas tellement bien ça, en général, quand on est enseignant, parce que parfois, on a l'impression qu'on est une sorte de profession libérale. Mais oui, ça fait partie des éléments d'éthique professionnelle. Obéissance dans les limites d'une demande qui serait jugée indécente ou que sais-je, bien entendu. Mais voilà, ça en fait partie. Et puis, vis-à-vis des collègues, une exigence de protection minimale. Hein, donc, il ne s'agit pas de défendre un collègue qui aurait commis des actions vraiment répréhensibles, où là, il peut y avoir, au contraire, un devoir de signalement, par exemple. Mais dans un certain nombre de cas... Ne pas avoir une parole méprisante, avoir une certaine réserve vis-à-vis du travail de ses collègues auprès des étudiants ou auprès d'autres collègues ou auprès de personnes extérieures, ça fait partie, quelques exemples, voilà, de ce qui pourrait appartenir à une éthique professionnelle dans l'enseignement, donc qui déborde effectivement le strict cadre de la relation enseignant-étudiant.
Oui, moi j'ajouterais ce questionnement par rapport à notre société actuelle et en particulier les outils numériques, puisque c'est quand même avec eux que l'on communique énormément aujourd'hui entre collègues. Et c'est vrai que ça vaut la peine, je crois, que parfois, entre collègues, on en fasse un objet de discussion, un objet de réflexion, de savoir comment est-ce qu'on communique avec ces outils-là. La loi travail impose une déconnexion, par exemple, hein, en dehors des horaires de travail. En tout cas, impose ou impose le droit, donne le droit à la déconnexion. Après que vous décidiez de communiquer par mail le dimanche soir, chacun prend ses responsabilités, mais on a le droit de ne pas répondre. Et ça, ce sont des choses qui, je pense, méritent d'être réfléchies. Parce que, alors, je donne un exemple. Je pense que vous pouvez tous repenser à des années de scolarité où vous avez peut-être appris à faire des lettres, où on apprenait qu'en haut à gauche, on met à tel endroit on met la droite, à tel endroit on met monsieur, madame, à tel endroit on met cordialement. Quand est-ce qu'on apprend à faire des mails professionnels? Et on a cette, je parlais de mythe autour du numérique, on a ce mythe d'une communication horizontale, d'une communication extrêmement facile, comme si on était dans un face-à-face. On a tous expérimenté des situations où, au contraire, c'est la brutalité et la violence que l'on perçoit dans ces situations de communication. Et c'est aussi avec les étudiants de leur apprendre cette compétence que, dans des outils du numérique, il y a des moyens de médier la communication et d'être aussi dans un... de retrouver des manières de réinscrire du rapport de courtoisie dans quelque chose qui est censé être horizontal et transparent. Voilà, juste...
objet de formation, effectivement. Ouais. Et puis, effectivement, peut-être sur l'usage des outils, je pense à cette question du droit à la déconnexion. On a des usages, par exemple, sur la plateforme de messagerie de l'université, pour, par exemple, envoyer un mail que l'on rédige le lendemain matin. Enfin, je fais ça assez fréquemment. Ça permet aussi de marquer, même si on a travaillé factuellement, parce que les limites du moment où on travaille peuvent être parfois... ce qu'elles sont, mais au moins on marque le fait que voilà, mon message il arrivera à 8h lundi matin, il part pas dimanche à 23h quoi. Donc voilà, il y a aussi, je pense que c'est aussi un objet de réflexion effectivement.
Alors éventuellement on peut prendre peut-être une petite question si vous en avez ici dans le public ou au loin à distance sur notre plateforme 100% conforme à la politique du SI.
Oui,
Cécile.
Du coup, bonjour. Moi, je suis enseignante, chercheuse ici. Donc, je poserais bien une question sur... j'en ai deux. Est-ce qu'il faut qu'on détruise les mémoires de recherche et auquel cas dans quel délai? Parce que les copies, j'entends bien, mais... un mémoire de recherche en master, est-ce qu'il y a des délais pareils? Est-ce que c'est la même chose? Puis j'ai une autre question aussi très pratico-pratique, hein, parce que quand on est sur le terrain, des fois, les questions se posent en termes de principe, mais aussi en termes d'action. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, la sollicitude... je pense qu'il y a une réciprocité aussi à instaurer entre... voilà, si nous, on est... voilà, les devoirs des étudiants, on s'interrogeait un petit peu avec ma voisine. Et puis, en fait, ma deuxième question, c'était, du coup, c'est plus la troisième. Le Moodle, est-ce que c'est comme Google? Est-ce qu'il y a... Parce que du coup, sinon, on est mal. Hein.
Je vais répondre à la première question. Oui, donc alors, les mémoires de recherche sont bien des archives publiques qui sont encadrées par le régime... qui concerne les archives publiques, et à ce titre, donc, l'instruction ministérielle qui les vise donne une durée d'utilité administrative de 5 ans. Alors, 5 ans, justement, nous avons effectué un groupe de travail cette année, l'année dernière, et donc vous devriez avoir bientôt les résultats, vous serez bientôt informés de notre travail collectif. Donc, il s'agit d'un groupe de travail qui réunissait François Giraud à mes côtés ainsi que le SCD, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que certains mémoires de recherche sont conservés en bibliothèque universitaire. Donc, nous avons donc décidé à la suite de ce groupe de travail que les mémoires qui auront eu une mention très bien seront de facto conservées pour une durée, en tout cas, de 5 ans au sein des bibliothèques universitaires. Et puis, les mémoires qui auront eu une note inférieure feront l'objet d'une conservation moindre.
Je voudrais réagir parce que moi, si vous voulez, le temps du savoir, c'est pas un temps administratif. Donc, en fait, plus généralement, j'ai envie de faire une remarque. quand, en fait, en termes de pédagogie, en termes de pratique, en termes de production de connaissances et de niveau recherche, quand il y a un décalage entre les réglementations et tout ça, il n'y a pas une jurisprudence, parce que, enfin, je ne sais pas. Là, ce n'est pas possible. Moi, un mémoire, si j'ai un mémoire excellent, je suis désolée, hein, vous allez me mettre en prison, mais je ne vais pas le détruire au bout de 5 ans.
Ah non, non, bien entendu, mais au contraire.
Un mémoire excellent, il faut que le savoir.
Ah, je ne suis pas du tout en train de dire que les mémoires seront détruites au bout de 5 ans. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. La durée d'utilité administrative, je n'ai peut-être pas été assez explicite à ce sujet, elle vaut pour l'ensemble des documents qui sont produits au sein de notre activité, que ce soit des documents qui seront détruits à terme, que ce soit des documents qui seront conservés pour toujours ensuite, en fait. Hein. Cette durée, en fait, elle concerne le temps pendant lequel vous allez avoir besoin du document pour votre activité au sein de l'établissement. Au terme de cette durée, donc 5 ans, hein, une décision est prise, à savoir soit le document est détruit, soit le document est conservé pour toujours. Et effectivement, voilà.
Donc c'est 5 ans une fois qu'on est à la retraite, quoi, clairement.
Pas du tout, 5 ans à compter de la production du document. Votre mémoire de recherche. Le mémoire de recherche est produit par un étudiant. Il passe sa soutenance, voilà. Donc, il a telle note qui lui est donnée. À la suite de cette soutenance, il se trouve qu'il a une très bonne note. Son mémoire, donc, ira en bibliothèque universitaire. Il sera conservé pendant une durée d'utilité administrative minimale de 5 ans. À la suite de cette DUA, ce seront les bibliothécaires ainsi que le bureau des archives qui détermineront si ce document-là, il a une valeur intellectuelle et historique suffisamment forte pour être conservé pour toujours. Mais alors, bien entendu, le rôle de l'enseignant, il est éminemment important, c'est puisque ça. C'est lui qui va donner... Qui va...
Peut-être pour préciser, nous, notre inquiétude, c'est on en a tous des bons exemples de choses qu'on veut garder un peu près de nous dans notre bureau. C'est là où, en fait, est notre interrogation. Est-ce que ça, c'est illégal? Et puis même, au-delà de ça, parce qu'on va peut-être le faire, qu'est-ce qu'on risque
Ah, c'est pas illégal.
À garder ce document qui a une valeur d'exemple. Voilà.
C'est pas illégal.
Non, mais...
Pour compliquer peut-être un tout petit peu la chose...
C'est dans le bureau. C'est pas chez soi.
Pour compliquer un tout petit peu la chose, il y a non seulement ceux qu'on conserve, parce qu'en effet, ils sont très bons et que du coup, ça nous intéresse de les conserver. Il y a ceux qu'on conserve et qui, étant très bons, nous servent potentiellement d'outils pédagogiques pour donner une illustration à de nouveaux étudiants de ce que serait un bon mémoire ou un bon travail ou éventuellement d'un bon travail avec des insuffisances, enfin voilà, comme outil pédagogique.
Il faut savoir que sur les mémoires de recherche, normalement, on ne se trouve pas la note qui a été attribuée à l'étudiant. Donc, normalement, l'étudiant, si le mémoire venait à être perdu, on ne pourra pas attribuer normalement un jugement de valeur. Alors, ça dépend du mémoire, hein, bien sûr. Je vais me faire disputer. Mais en tout cas, pour la note, voilà. Normalement, on ne devrait pas pouvoir attribuer un jugement de valeur sur cette production. Bon, vas-y.
Et pourtant, plus, hein, il suffit que l'étudiant ce soit pas justement un excellent, mais un très mauvais, avec une orthographe de sanglier. C'est clair qu'on va porter un jugement de valeur sur l'étudiant en question. Donc, pour répondre à la question, juridiquement... le rapport de l'étudiant contient à minima son nom, son prénom, le diplôme dans lequel il s'est inscrit. Hein, donc c'est de la donnée à caractère personnel. Si on applique le RGPD directement, stricto sensu, dessus, l'amende maximale peut être 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 10 à 20 millions d'euros. Ça grève un fonds de roulement, cher ami. On n'a jamais vu un responsable de traitement aller en prison. Oui, parce que j'oubliais, c'est 5 ans ferme aussi. On n'a jamais vu quelqu'un aller en prison parce qu'il avait un devoir d'étudiant excellent au fin fond de son bureau. Derrière, le règlement général sur la protection des données indique aussi qu'il est possible de conserver, au-delà de la durée d'utilité administrative, à des fins de recherche scientifique ou historique. Et donc, là, madame, je peux répondre à votre question. Si votre mémoire, il revêt une importance scientifique et qu'il vous sert de support pour vos futures recherches, vous pouvez le garder indéfiniment.
Pédagogique. Oui, c'est scientifique.
C'est scientifique, c'est
continuer comme ça.
Non.
Oui, oui.
On a été filmé, je ne vais pas...
Je pense que là, on est aussi sur des exemples de mémoires qui sont en version papier, qu'à partir du moment où ils sont numérisés, enfin, non, mais électroniques, et s'ils sont déposés sur la plateforme Dumas.
Alors, c'est ça encore différent.
Voilà. Mais on n'est pas sur la même pérennité. Et de la même façon, bah, on a une pérennité qui est liée aussi à la plateforme.
Oui, tout à fait.
Et avec un document qui, du coup, va circuler sur le net et qui va encore accroître sa pérennité.
Alors, on a une réglementation particulière hein, concernant la diffusion des archives publiques sur Internet. Hein. On a eu une ordonnance qui est parue le 10 décembre 2018 et qui concerne justement tous les documents d'archives publiques qui pourraient contenir des données sensibles, dont font partie, par exemple, les données qui permettent de connaître notre appartenance syndicale, les données de santé, les données qui nous permettent de connaître nos convictions religieuses, les données biométriques, génétiques, enfin bon, j'en passe. Ce délai de communication, il est au minimal de 200 ans sur Internet, voire plus si le code du patrimoine donne une durée de communication beaucoup plus longue.
Alors, pour conserver à peu près le format de la séance, je vais interrompre ici les débats.
C'est juste une question. Okay. Ah oui, est-ce que Moodle sur... ah oui, égale alors... Google? Non, le seul point commun entre les deux, c'est le O, le L et le E. Moodle et Google, c'est absolument... Non. Moodle est parfaitement maîtrisé. Il reste au sein de l'établissement. C'est un écosystème qui est connu, hébergé sur le site de Caen, au sein de l'université. Il n'y a pas de...
Avec un code...
Il n'y a pas de profilage, il n'y a pas ce genre de joyeuseté. Et il est conforme au RGPD, vu qu'il avait fait l'objet d'une démarche de conformité, disons, d'homologation
à
RGS.
À la politique de sécurité des systèmes d'information de l'université, puisqu'on est en cours de l'homologuer de point de vue sécurité. Donc de s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont bien prises en
compte. On est parfaitement bon au niveau réglementaire.
Après, ça ne veut pas pour autant dire que les contenus que l'on met sur Moodle sont nécessairement tous impeccables au niveau de la propriété, du respect des...
Ah non, mais là, ça n'engage que la personne qui a déposé et qui prend ses responsabilités.
Alors, on va conclure ici. Je vais éventuellement faire comme avec les étudiants, vous inviter à ouvrir vos agendas, alors, de façon plutôt virtuelle, parce que donc c'était le premier. Donc, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on se retrouvera ici, si vous le souhaitez, et puis on aura une formule qui permettra toujours de pouvoir suivre à distance. Le prochain Midi Pédago, qui sera le 8 octobre, portera sur la question de la conception des enseignements. Donc comment concevoir des enseignements qui favorisent les enseignants de chacun et chacune, la réussite, l'apprentissage. Je me permets également d'attirer votre attention sur nos supports de documentation dans le dispositif de transformation pédagogique, parce que de façon complémentaire au Midi Pédago, nous avons sur le deuxième semestre tout un ensemble de modules de formation, et les personnes qui sont autour de la table sont également des intervenants qui approfondiront ces points au cours d'ateliers, des ateliers de 8 heures sur la question de l'éthique, comment parce que là j'ai un peu bridé les temps de parole et puis largement, donc comment on prévient le plagiat, comment on peut partager ces contenus, protéger ces cours, toutes ces questions l'utilisation des ressources électroniques libres, tout ça donnera lieu à des formations qui se dérouleront au deuxième semestre. On a également un établissement avec des canaux qui permettent, en cas de difficulté, en cas de question, de pouvoir aussi mobiliser les services et des personnes ressources. Donc, il y a eu à ce titre la petite documentation qui, me semble-t-il, il n'y a pas eu de mise à jour récente. Le document est récent, mais vous l'avez, il est à jeu. On se comprend. autour de la question du RGPD, donc une petite plaquette qui permet d'avoir notamment les coordonnées et puis savoir les règles de base, et même chose sur les bonnes pratiques pour protéger votre vie numérique. Donc De manière générale, il y a toujours autour de vous des moyens de pouvoir trouver des questions. Et sur les questions, là ici c'est questions pratiques, sur les questions de déontologie, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. En cas de question, la prudence, en cas de questionnement, en cas de problème, la prudence s'impose souvent. Et voilà, de ne pas rester seul, de jamais rester seul par rapport à ces questions-là, discuter avec des collègues, votre hiérarchie. Voilà, ne pas fermer ce type de canaux. Très bien. Je vais remercier donc, je vous remercie d'être venus, à tous, d'avoir assisté. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
Oui.
Ah, si, je savais que j'avais un truc. Le 4 octobre, je l'avais noté en plus. Le 4 octobre, je cherchais. Donc, le 4 octobre, peut-être tu peux faire là.
Le 4 octobre, en fait, c'est à destination principalement des nouveaux arrivants. On fait une présentation commune, en fait, un peu sous forme un peu ludique, des bonnes pratiques. Donc, vraiment, ce sera des conseils et des présentations de situation, en fait, des mises en situation et quelles sont les bonnes pratiques derrière, quoi. Donc, on le fait à tous les trois ensemble. Donc, voilà. C'est le matin et c'est dans cette salle ici, à partir de 9h.
9h, ouais.
Très bien. Bon après-midi à tout le monde.
Merci.